Et donc aujourd'hui, on va aller sur la vraie question qui est la Trinité, c'est-à-dire comment on peut parler d'unité avec trois personnes. On a vu dans les deux cours précédents la grande richesse des personnes. Donc on peut se dire, bah du coup, Dieu unique, il est un peu mis à mal. Et pourtant, c'est toute la révélation qui nous dit un seul Dieu, mais elle nous dit un seul Dieu et elle nous présente trois personnes. Donc c'est beaucoup pour notre petite tête. Pourtant, la Trinité n'est pas d'abord le mot n'est absolument pas dans la Bible, et c'est pas non plus un concept.
C'est pas dans la Bible.
Dont le théologien pourrait partir comme une donnée évidente. Mais en fait, on peut. Alors, une des approches, c'est que finalement, comme beaucoup de choses très compliquées, quand on est dedans, on s'aperçoit de toute la simplicité de la chose. Mais probablement qu'il nous faudra être dans le royaume des cieux pour avoir cette simplicité de compréhension et cette connivence. En attendant, ça reste un mystère. Donc, évidemment, comme tous les mystères de Dieu, comme il vient nous le révéler, du coup, on peut y accéder d'une certaine façon. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, en fait, on va partir de la révélation, parce que c'est toujours le meilleur point pour nous raconter cette tri-unité. Et puis, on va essayer de creuser un petit peu plus en approfondissant les relations, puisque c'est là que ça se passe. Donc, il faut être très humble par rapport à notre langage, les mots qu'on utilise sont inappropriés pour dire le mystère de Dieu et surtout pour parler de la Trinité. Mais avec l'aide de Dieu et surtout du Saint-Esprit, on doit pouvoir faire éclater notre langage pour être capable d'au moins d'en comprendre quelque chose. Et donc, à la fois, on va utiliser beaucoup de concepts et en même temps, l'idée, c'est vraiment d'être simple. Et ce sera très bien dans deux cours en avril. On va être sur comment prier, en fait, la Trinité. Et donc, je pense que ça permettra de se l'approprier. Donc aujourd'hui, ça va peut-être vous paraître un peu conceptuel, mais j'essaye de le rendre le plus parlant, en tout cas, en faisant cet exposé. Donc je vous propose d'ailleurs de commencer par juste invoquer le Saint-Esprit. Je pense qu'on en aura besoin aujourd'hui. Et puis c'est lui qui nous donne les bonnes lunettes pour comprendre tout ça. Alors, on va commencer par un peu l'unité des sens. Donc, qu'est-ce que nous dit la révélation sur le seul Dieu? Donc, on voit un Dieu exclusif, une source absolue, je suis. Donc, un Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu, le seul Dieu. Les autres dieux n'existent pas. Donc, tout ça, on l'avait vu un peu dans le cours numéro 2. Et pourtant, l'unité de Dieu n'est pas solitude. Dès l'Ancien Testament, on a un dialogue en Dieu. Faisons l'homme à notre image dans la Genèse. On a déjà un collectif. Qui nous montre qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. On a aussi le passage d'Abraham qui reçoit les trois hommes au chêne de Mambré et qui leur parle au singulier. C'est très intéressant parce que dans le dialogue, il oscille entre un et du multiple. Et donc, il parle au singulier, mais il en vit trois, mais en adorera un seul. Ce que nous dit saint Augustin. Très intéressant de relire ces phrases-là qui nous montrent cette chose hybride qui est très compliquée pour nous. Dans le Nouveau Testament, on parle de chacune la fonction de chacune des personnes, mais on ne sépare jamais les vocations des personnes divines de la vie qu'elles nous communiquent. Donc elles sont toujours soit recentrées par rapport à l'autre, par rapport à une autre personne, soit par rapport à la source de vie. Je vous ai listé un certain nombre de phrases. Une des plus intéressantes, c'est « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au nom, c'est bien au singulier que c'est marqué là, donc ce n'est pas aux trois noms, c'est un seul nom. On a bien un seul Dieu en trois personnes. Et quand on sait l'importance du nom chez les Hébreux, ça nous dit bien quelque chose sur l'être de Dieu qui est au singulier. On a aussi tout ce qu'on a vu dans le discours.
Oui. Rappelons-nous oui. Tout le discours du pain.
Alors ça, c'est ce qu'on a vu là. Vous le verrez dans les exposés des deux dernières fois. En fait, on est beaucoup rentré sur le discours du pain de vie et l'annonce du Saint-Esprit. Je me focalise là juste sur la phrase « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, on a encore deux personnes et puis le thème de l'unité. On a une autre phrase dans 1 Corinthiens, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » Finalement, il y a un peu deux fois la même phrase, et pourtant on parle un seul Dieu, et ensuite on parle du Père, et on parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans la phrase de 1 Corinthiens 12, on a aussi « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. » Donc on a aussi cette unicité, eh bien, qui est appliquée à plusieurs personnes. Et enfin, dans l'Apocalypse, on a l'image d'un trône, un peu trine. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc on a le trône pareil au singulier, et on parle de Dieu et de l'agneau, et puis du fleuve de vie qui coule de du trône. Donc toutes ces images nous montrent à la fois que ce que nous montre toute la révélation, c'est le refus du trithéisme. Donc on n'a pas trois dieux, mais on a un seul Dieu. C'est vrai, quand on parle de personne divine, on pourrait s'imaginer, du coup, pourquoi pas trois dieux ? Nous, personne, on a une forte tendance à penser individu. Or, on voit que très tôt dans le symbole de Nicée, en 325, on insiste, c'est-à-dire dans le credo des apôtres, on était sur « je crois en Dieu », là on insiste « je crois en un seul Dieu ». Donc il y a une vraie avancée. Je vous ai mis en annexe parce que le 4e siècle, où il y a le symbole, le concile de Nicée, a été marqué par des hérésies autour de deux thèmes, l'incarnation, donc comment le Christ pouvait être Dieu en s'incarnant, ou comment l'homme Jésus pouvait être aussi Dieu, dans les deux sens. Et puis la problématique sur la Trinité avec l'arianisme. C'est une des grandes hérésies, et le symbole de Nicée répond à ces deux problématiques. L'arianisme, c'est penser que finalement, le vrai Dieu, c'est le Père. Donc le Fils, il est un peu moins Dieu, le Saint-Esprit est encore moins Dieu. Donc, du coup, on a un peu... Voilà, on n'est pas tout à fait avec l'égalité des trois personnes divines, l'égalité en Dieu, donc ça, c'est l'arianisme. Et le symbole de Nicée, donc à la suite du concile de Nicée, 325, était une réponse à l'arianisme pour montrer l'égalité du Père et du Fils. Et puis quelques années après, il y a eu le concile de Chalcédoine pour insister sur la même chose pour les Saint-Esprit, qui avait été un peu oublié à Nicée. Je vous ai mis le symbole dit de Saint Athanase. Athanase est un des grands, donc à l'époque il n'était pas encore évêque d'Alexandrie pour le concile de Nicée, mais il l'était pour le concile de Chalcédoine, et ça a été un des grands qui a lutté contre l'arianisme. Et donc, on l'attribue à Saint Athanase, mais en fait, il est du 6e siècle, mais il reprend bien ce que dit Saint Athanase dans ses écrits. « Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Un créé le Père, un créé le Fils, un créé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. » Tout comme ils ne sont pas trois incréés, mais ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit, et cependant ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et cependant ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, et cependant ils ne sont pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Mmh. En fait, il ne répond pas vraiment à la question, mais en tout cas, il affirme exactement la problématique. C'est qu'à la fois les attributs d'infini, d'éternel, de toute-puissance, que nous verrons d'ailleurs plus approfondis, parce que ce qui est commun à la Trinité, le prochain cours, ce sera plus sur les attributs des trois personnes, donc commun, le tronc commun. Donc là, on oublie bien, il y a tout le monde, les choses sont communes, et pourtant, ce n'est pas trois dieux.
Excuse-moi, vous voulez dire comment... c'est comme... là, on parle de la religion catholique, mais la religion musulmane, il n'y a bien qu'un dieu aussi.
Ah oui, alors là, on va juste consacrer pour l'instant à la religion... mais il faut d'abord qu'on rentre dans la Trinité. Voilà. Après, on parlera un tout petit peu de la religion musulmane, mais c'est plutôt à la fin.
Il y a un parallèle, là.
Donc, du coup, ça affirme bien la problématique. Et à la fois, il y a unité, il y a un seul dieu, et en même temps, on a trois personnes qui sont d'égale divinité. Tertullien, au IIIe siècle, les trois sont unités, mais non pas un seul. Ils sont un seul être, mais non pas une seule personne. Mmh. Et puis Saint Jean Damascène, qui me paraît plus intéressant. Donc lui, il commence à aborder la question avec les hypostases. Donc en fait, il faut savoir que dans le langage grec, jusque bien plus tard que ces siècles-là, Le mot personne n'existe pas, donc on n'a pas le concept de personne. On a le concept d'hypostase, sachant qu'hypostase fait référence aussi au masque, comme dans le théâtre. Donc ça a créé aussi le risque du modalisme, qui est de dire finalement les trois personnes divines ne sont pas des personnes vraiment séparées, mais c'est juste des modes d'être. Donc comme si deux changeaient de casquette, fonction de ce qu'il était en train de faire. Donc du coup, c'est un peu le terme hypostase qui est un peu ambigu. Donc c'est pour ça qu'il insiste avec parfaite, complète, subsistante. Donc subsistante, c'est qu'il y a une vraie réalité, donc ce ne sont pas que des masques, qui ne sont pas des parties d'une essence unique, mais possèdent chacune l'essence divine. Je trouve que ça aborde la question de penser Dieu et après trois personnes, ou de penser trois personnes qui forment un seul Dieu. Et en fait, ça va être beaucoup de nos interprétations qui sont comme ça, notamment après je vous parlerai de l'iconographie, mais les latins, ils ont plutôt une vision avec presque comme s'il y avait une réalité qui était Dieu, et puis après elle se manifeste en trois personnes, donc on a une vague tendance à aller vers le modalisme, ou vers le quadrithéisme, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, comme s'il y avait Dieu et puis trois personnes, donc comme si on avait quatre dieux. Donc ça, c'est la tendance plus latine dans la façon dont on représente les choses, qui est un peu le danger, c'est qu'on conceptualise Dieu comme s'il était indépendant des personnes, et puis en plus, on a les trois personnes. Donc ça, c'est un peu la tendance latine de la façon de regarder les choses. La tendance grecque est assez différente, puisqu'il y a vraiment le Père qui est à la source, qui donne le Fils, qui donne le Saint-Esprit. Donc eux, on a plutôt le risque de l'arianisme, qui est de dire seul le Père est vraiment Dieu, puis les autres, c'est un peu moins Dieu. Voilà. Donc en fait, les deux visions, parce qu'elles sont compliquées, donc elles tirent plus ou moins d'un côté ou de l'autre, et donc elles ont tendance à être loin de la vérité, puisqu'il faut tenir, et c'est ça tout l'enjeu de la révélation et tout ce que nous donne la révélation, c'est vraiment tenir en même temps un seul Dieu et trois personnes. Et pas un seul Dieu d'un côté et trois personnes, c'est les trois personnes forment un seul Dieu. Voilà. Dans le traité du Saint-Esprit de Saint-Basile, alors Saint-Basile, il a été aussi au concile de Chalcédoine, c'est un grand évêque de Cappadoce, qui était d'ailleurs le patriarche, qui a beaucoup écrit, notamment le traité du Saint-Esprit, ce qui est assez étonnant, moi, je ne sais pas, le traité du Saint-Esprit. Donc il parle du Saint-Esprit, mais du coup il parle beaucoup de la Trinité. Donc le chemin qui mène à la connaissance de Dieu va donc de l'Esprit qui est un, par le Fils qui est un, jusqu'au Père qui est un. Donc il y met un certain mouvement. À la fois chaque personne a sa réalité, c'est un chemin de connaissance. Donc les trois personnes ne sont pas identiques et ne se substituent pas l'une à l'autre. Et en même temps, à chaque fois, c'est l'unique Dieu qui est là. Et inversement, c'est dans le sens de l'autre sens, la bonté naturelle, la sainteté nature et la dignité royale viennent du Père, passent par le Fils, seul engendré, jusqu'à l'Esprit. C'est de cette manière que l'on confesse les hypostases sans que se désagrège la doctrine de la monarchie. Enfin, de la monarchie, c'est que le Père est à la source, et donc c'est lui qui a la prééminence. Donc là, en fait, il fait les deux mouvements. Moi, je suis créature, j'accède au Père en passant dans l'Esprit, par le Fils, vers le Père. Donc c'est dans ce sens-là que ça se passe, et dans l'autre sens, Dieu se fait connaître, c'est le Père qui envoie son Fils, et jusqu'à l'Esprit qui nous permet de le rencontrer. Donc on a les deux mouvements, de la connaissance. Donc en fait, ce que ça nous montre, c'est que chaque personne est un. Donc en fait, chaque personne est la totalité de la divinité. Je pense que ça, c'est très important, et ça va nourrir notre prière, de ne pas penser un Dieu, puis de temps en temps on s'adresse au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais que vraiment, quand on prie le Fils, quand on prie Jésus, ben en fait on a la totalité de la divinité. Parce que, comme il l'a dit, qui me voit le Père. Donc il y a une. Quand on prie une des personnes divines, en fait on prie la totalité, puisque tout de suite elle inclut les deux autres.
C'est quoi les hypostases ?
Alors l'hypostase, c'est ce que je disais sur le masque. On n'avait pas le mot de personne, donc du coup, dans tous ces siècles-là, on utilise ce mot-là, qui était un peu la manière dont il se présente, donc une sorte de personnalité, voilà. Puisque le masque, dans le théâtre, incarnait un personnage, donc une personnalité. Alors, l'iconographie, en fait, elle a oscillé effectivement entre les trois. L'icône de Roublev est assez connue. Et puis, ce triangle-là, qui est une autre vision, beaucoup plus latine des choses d'ailleurs, avec les trois personnes. Et finalement, c'est ce que je vous disais sur le fait de tenter d'avoir un quatrième Dieu, c'est qu'on représente Dieu au milieu et puis il y a les relations entre les deux. Et donc en fait, le Père n'est pas le Fils, si vous lisez les choses autour. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit et Saint-Esprit n'est pas le Fils. Par contre, les trois sont Dieu. Donc les est et les non-est disent cette chose-là. Cette représentation est finalement assez limite pour nous dire la Trinité, puisqu'elle nous montre une sorte de séparation et d'éclatement qui n'est pas exactement ce que nous dit la révélation. On a aussi beaucoup d'autres expressions qui sont limites, dont une qui est quand même dans notre credo, Deus de Deo. D'un point de vue théologique, ce n'est pas très juste. Le Fils n'est pas Dieu, Dieu né de Dieu. C'est une formule qui n'est pas juste. Alors, en fait, dans le symbole de Nicée, elle est avec plein d'autres expressions. Donc, c'est pour nous dire, en approchant par plein d'expressions, ce qu'est la relation du Fils et du Père. Mais si on prend juste Deo de Deo, c'est pas juste. Ça ne dit pas bien la Trinité. C'est ambigu. Voilà, c'est pas complètement faux, mais c'est ambigu. Grégoire de Nice avait utilisé aussi l'expression des trois soleils, qui elle aussi est ambiguë. S'il y avait trois centres, voilà. Je veux dire qu'au contraire, comme le soleil est toujours le centre, c'est comme si les trois étaient le centre. Mais bon, ça reste des formules un peu malheureuses, enfin en tout cas qui peuvent prêter à confusion. Bon, c'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de choses faciles à dire sur la Trinité, hein, donc tous les mots sont un peu difficiles à aborder.
Il y a toujours
aborder.
Des recherches qui sont faites.
Ah oui, on avance toujours, mais...
On avance toujours,
c'est pas une manière de le dire. Alors, donc on voit bien que tout ce qu'essaye de faire ces pères d'Église, c'est vraiment de ne pas lâcher le monothéisme qui reste le cœur, le socle. Le mot Trinité, donc c'est un concept qui est apparu au IIIe siècle sous la plume de Théophile d'Antioche. Mais ne veut pas dire qu'on additionne les trois personnes divines, même si on les connumère quand on dit le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais comme chacune est le Dieu, en fait, on a cette unité d'être. Et donc, on emploie le mot consubstantiel, qui va être remis d'ailleurs dans le credo en traduction française. Voilà, toi seul est le Saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, dans le Gloria. Donc on a souvent cette modulité trinaire, dans le trinaire, avec trois expressions, et en même temps qui dit à chaque fois avec un singulier, pour dire l'unité. Alors si on va un petit peu plus loin, parce que là c'est assez abstrait, on est resté assez à la surface des choses, donc après si on rentre un peu plus dans les relations, parce que finalement ce que nous révèle la révélation, c'est surtout qu'il y a des relations entre ces personnes divines et finalement ce jeu-là qui nous dit quelque chose. Donc déjà, dans tout ce qu'on peut voir dans l'économie du salut, donc dans la façon dont Dieu intervient dans notre monde et vient nous sauver, on voit que les trois personnes divines collaborent de façon convergente autour d'une seule œuvre. Toujours dans Saint Basile, traité de Saint-Esprit. Or, dans l'acte qu'il a créé, comprends bien, je t'en prie, la cause qui est au principe de tout ce qui est fait. Bon, c'est des tournures de phrases assez plus archaïques, mais bon, on s'y retrouve quand même. Le Père, la cause qui est l'artisan de cette création. Le Fils est la cause qui porte l'œuvre à son achèvement. J'ai mal lu. La cause qui est au principe de tout ce qui est fait, c'est le Père. La cause qui est l'artisan de cette création, c'est le Fils. Et la cause qui porte l'œuvre de son achèvement, c'est l'Esprit. Donc on a bien une sorte de collaboration avec chacun sa part dans la collaboration. Ainsi, c'est par la volonté du Père qu'existent en puissance les esprits serviteurs, par l'acte du Fils qu'ils parviennent à l'être, et par la présence de l'Esprit qu'ils reçoivent leur perfection. Qu'on ne s'y trompe pas, j'aime bien parce que c'est toujours très... les Cappadociens m'amusent toujours beaucoup avec leur façon de parler très, très simple. Donc qu'on ne s'y trompe pas, je ne dis pas qu'il y a trois hypostases qui seraient trois principes. Je ne prétends pas non plus que serait imparfait l'acte du Fils. Il n'y a qu'un seul principe des êtres, qu'on a bien un seul Dieu, qui créé par le Fils est parfait dans l'Esprit. Le Père qui opère tout en tous n'est pas imparfait dans son acte, ni le Fils insuffisant dans son activité créatrice si l'Esprit ne lui donne pas son plein achèvement. Donc, ce n'est pas parce qu'il donne des modalités de collaboration à chacune des trois personnes qu'il est nécessaire et que chacune ne réalise pas finalement la totalité de la création. Donc ce qu'il avance, c'est lui, en fait, le Père n'aurait pas besoin du Fils puisqu'il crée par son seul vouloir, mais c'est par le Fils qu'il veut. Le Fils, lui, n'avait nul besoin d'aide puisqu'il agit à la ressemblance du Père, mais le Fils, lui aussi, veut parfaire par l'Esprit. Donc en fait, il nous introduit l'idée que la collaboration, elle ne vient pas d'un manque ou d'une voilà, que chaque personne est incomplète, mais elle vient d'une vraie volonté, d'un désir de le faire avec les autres. Voilà. Donc ça nous dit quelque chose des relations entre les trois personnes divines. Donc ce thème des différents rôles de chacune des personnes divines a été repris par, bon, par exemple, je vous ai mis deux exemples, Saint Athanase et Saint Irénée. Il y a plein de manières de décrire les choses. Je vais prendre Saint Irénée. Le Père décide et ordonne, le Fils exécute et modèle, l'Esprit nourrit et fait croître. On est toujours un peu dans la même idée. Le Père est toujours apporté à la source, le Fils à l'action, et le Saint-Esprit a un côté que ça s'inscrit, ça se nourrit, ça s'approprie. Donc ce que nous montre la révélation, c'est l'unité d'agir des personnes divines qui révèle l'unité d'être, non pas une unité d'agir par nécessité, rien ne manque à chacun pour agir, mais par volonté, par gratuité. Chacun souhaite agir avec et par l'autre. Donc en fait, les premiers pères de l'Église, on est toujours dans les premiers siècles, hein, on n'a pas beaucoup avancé, ne font aucune difficulté à voir dans la création le salut, l'inspiration des Écritures, la divinisation de l'homme, la confection de l'Eucharistie, etc. Donc en fait, l'œuvre des personnes divines, pardon, qui agissent inséparablement. Donc en fait, dans chacune des actions, et notamment c'est très clair sur la création, enfin, le texte du voilà, les trois personnes ont collaboré. Après le jeu, on utilise souvent, ils utilisent le jeu des prépositions de, par, en, pour exprimer un peu le rôle de chacune des personnes, ce qui est très consonant, c'est ce que fait énormément Saint Paul, quasiment dans toute la façon dont il embarque les trois personnes. Il utilise toujours des prépositions pour montrer le rôle de chacune. Et donc chacune a quelque part là, sa part dans l'œuvre du salut.
Mais en chacune même temps, selon son style propre.
Ouais. C'est chacune son sa part. Ouais. Pourtant, on ne peut nier le fait que l'incarnation est la mission du Fils qui est seul à s'incarner. Donc là, quand même, voilà, tout n'est pas vrai. Même si c'est par le Père et que l'Esprit est là aussi. Puisque le Père envoie le Fils et le Saint-Esprit loin, confère le baptême, ou confère la préparation dans le sein de la Vierge Marie pour qu'il puisse prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. De même, la sanctification est en général plutôt l'œuvre propre de l'Esprit, mais on voit bien que c'est le concours du Père qui adopte, et finalement, et le Fils qui offre son sacrifice pour leur salut, donc pareil, les trois personnes sont là. La monarchie du Père, donc ça c'est vraiment un enseignement que de tout l'Orient et des Grecs et de la partie orientale des Grecs, c'est vraiment de tenir la monarchie du Père, qui est la pierre angulaire, puisque finalement l'unité divine repose sur le Père, dont émanent le Fils et l'Esprit selon deux voies différentes et irréductibles l'une à l'autre. Le Fils est engendré, l'Esprit procède. Donc cette idée d'unité du Père est très importante. C'est d'autant plus important qu'il faut savoir que dans 85%, 90%, enfin, j'ai pas compté, hein, c'est ce qui est dit, dans la Bible, quand on parle de Dieu, quand le mot Dieu est associé, en fait, c'est le mot Père derrière. Donc, en fait, quand on parle de Dieu, on parle à 90% des cas, on parle du Père. Il y a très peu de cas de figure quand on en voit le mot Dieu dans la Bible. En fait, on parle du Fils ou du Saint-Esprit ou des trois ensemble. Voilà. Donc il y a quand même cette monarchie du Père qui est vraiment à conserver et qui est vraiment le... Voilà, tout vient du Père et tout va vers le Père. Alors on voit que toutes ces personnes divines, enfin les trois personnes divines, ne sont que relations et que c'est ça en fait qui fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc déjà, le Père et le Fils, ils sont nommés par leurs relations. En fait, on a leur nom propre, ils s'appellent le Père, ils s'appellent le Fils. C'est un terme relatif. Donc ils ne sont rien d'autre que la relation. Le Père n'est Père que parce qu'il a un Fils, le Fils n'est Fils que parce qu'il a un Père, et chacun est entièrement et exclusivement dans cette relation. Quand Jésus dit « qui me voit, voit le Père », il peut le dire parce que justement cette relation, elle est l'essentiel de leur être. Nous, quand on dit qu'on est le fils de quelqu'un, ou qu'on est la sœur de quelqu'un, ou qu'on est la mère de quelqu'un, ben en fait, on est plein d'autres choses. Moi, je suis d'abord Sylvie, puis après, je suis en plus plein d'autres choses. Mais eux, c'est pas ça, c'est... Ils ne sont que, le Père n'est que le Père de Jésus. Voilà. C'est tout son être, toute sa vie, tout ce qu'il est. Voilà. Et donc ça, c'est comme si la relation était tellement... donc on verra un peu plus tard le concept de relation subsistance, mais c'est que la relation, elle est tellement forte qu'elle devient l'exclusivité de la personne, en fait, qu'elle définit la personne. Donc ça, c'est un peu une révolution de copernicienne pour nous, parce qu'on n'a pas du tout cette notion-là de la personne. Donc on va approfondir un petit peu plus. le nom de chaque personne divine donc, est donc relatif, alors que le nom de Dieu nous dit l'être je suis. Voilà, quand il se présente à Moïse, il dit je suis. Donc là, on n'est pas du tout dans du relatif, on est dans du affirmatif et du posé. Donc on voit bien qu'il y a deux choses différentes. Donc les trois personnes ne sont que communication et coïncidence, tout en restant distinctes comme sujet en Dieu. En Dieu, le Père n'est que Père et le Fils n'est que Fils. Le reste, on ne s'identifie. Tout le reste, leur être, leur acte s'identifie. En fait, la seule chose qui fait la différence des personnes en Dieu, c'est leur relation. Parce qu'ils ne sont que cette relation. Alors cette notion de personne, on voit bien qu'elle est très très différente de la notion d'individu que nous associons à personne. Les personnes divines sont des sujets à la fois, ils sont des vrais sujets responsables, inaliénables d'existence. Chacun est... Ben non, c'est la tempête. Chacun est irréductible à l'autre, puisque le père n'est pas le fils, donc c'est pas, on n'est pas dans le modalisme, hein, c'est vraiment des personnes distinctes. Fils n'est pas le père, l'un donne, l'autre reçoit, et donc ils existent bien différemment. Et c'est bien de source, c'est pas juste la façon dont ils agissent avec nous, c'est même déjà en Dieu, puisqu'on dit le père donne et le fils se reçoit du père. Ça, on l'avait vu beaucoup dans le discours de Saint Jean. Donc en fait, ce qui constitue les personnes, ce n'est pas qu'on puisse les individualiser ou les séparer, ce qui est notre mode de interprétation du mot personne. C'est pas non plus d'exercer sa liberté pour se réunir ou s'unir. Ça, c'est l'unité que nous avons dans un couple. Voilà, il y a un choix de se réunir. Les deux libertés se rencontrent pour s'engager l'une avec l'autre. On n'est pas dans cet ordre-là. Donc, dans les personnes divines, en fait, ils sont des sujets, à la fois parce qu'il y a une conscience personnelle, puisqu'ils sont cette relation, et donc être père, ce n'est pas la même chose en conscience que d'être le fils.
C'est la divinité spirituelle.
Alors, on peut dire ça comme ça, mais le fils, il est aussi fils quand il est même un homme. Donc, ouais. Du coup, c'est...
Ouais.
En fait, c'est vraiment la notion de se donner complètement. Donc, c'est un peu plus, on verra, sur l'amour, que vraiment, on peut, ça constitue ces personnes. Donc, en fait, c'est à la fois pas des personnes qui sont séparées et qui, du coup, choisissent d'être ensemble et qui seraient tellement ensemble que ça ferait un... comme on pourrait dire ça sur le couple humain, même si c'en est une, ça nous approche, mais c'est dans l'autre sens. Ils sont un parce qu'ils sont complètement tournés vers l'autre. Dans l'adoration, le Père a utilisé la première partie de l'adoration, c'est le Fils est tout tourné vers le Père. Il est constamment tourné vers le Père. Donc il n'est que dans cette relation, que dans cette réception de ce que donne le Père et dans le fait qu'il lui rend par son amour. Alors on va continuer à aller un tout petit peu plus loin. Donc la relation ne multiplie pas l'être. Donc en fait, entre les trois personnes divines, tout est commun. C'est facile, tout est commun. L'être, l'essence, la volonté, la gloire, la sagesse, la puissance, c'est ce qu'on a vu dans le premier texte. Tout est commun, sauf ce qui est spécifiquement de leur domaine personnel, donc sauf ce qui est exactement sur leur relation personnelle. Donc pour les latins... l'expression c'est tout est commun sauf l'opposition des relations. Ça, c'est ce qui a été dit au 9e concile, au 11e concile de Tolède en 675. Quand on dit l'opposition des relations, ça veut dire la place différente que chaque personne occupe par rapport aux autres. Donc uniquement les unes par rapport aux autres. Dans la relation forcément duelle, le père vis-à-vis du fils, le fils vis-à-vis du père, etc. Et le père et le fils vis-à-vis de l'esprit. Donc les Grecs, eux, ils aiment mieux, c'est toujours leur représentation qui est un peu différente. Ils aiment mieux parler de la singularité hypostatique de chaque personne. Donc, ils donnent plus un attribut. Qu'est-ce qui caractérise le Père ? C'est le fait qu'il est inengendré, le Fils qu'il est engendré, le Saint-Esprit qu'il est procédant. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne s'avance pas tellement plus. Mais ce qu'ils n'aiment pas trop, c'est cette idée de face-à-face binaire, qui donne une idée que, voilà, c'est les Grecs, ça n'aiment pas du tout ça. Surtout que du coup, comme il y a la hiérarchie, enfin la monarchie du Père, ça ne leur convient pas. Bon, donc on est derrière tout ce qui a donné après la crise du filioque. Mais dans les deux cas de figure, ce que ça montre bien, c'est qu'à chaque fois, on a finalement le jeu distinct, la relation, la partie personnelle, elle est finalement très uniquement liée à la relation, et tout le reste est commun. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'unité que de différence, les personnes divines. Et pourtant, c'est ce qui nous manifeste à nous et ce qui nous est le plus présent. Donc c'est tous les termes, le Père en moi et moi en lui. Donc on n'a pas de, qui sont à la fois inclus les uns dans les autres, enfin les uns dans les autres, mais identifiés les uns aux autres. Le Père et moi, nous sommes un.
C'est hyper intéressant. La suite.
Alors, là, on rentre dans la partie très philosophique. Donc, Saint Augustin avait ouvert la voie, mais bon, moi, je préfère Saint Thomas d'Aquin, puis je trouve qu'il avait plus abouti la chose.
Ouais.
Donc, en fait, ce que Saint Thomas d'Aquin fait, c'est qu'il il essaye de travailler sur cette notion de relation. Là, il reprend des termes. Donc, Saint Augustin, comme Saint Thomas d'Aquin, ont beaucoup étudié Aristote, et donc ont essayé de réutiliser les concepts d'Aristote pour... en les appliquant à la théologie. Et donc, dans Aristote, il y a des choses qui sont accidentelles, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à mon être, qui sont un peu indépendants, voilà, qui sont accessoires, on pourrait dire. Et puis, il y a des choses qui sont substantielles, c'est-à-dire qui font partie de l'être. Donc, Saint Thomas réutilise ces concepts en disant que la relation au niveau de Dieu n'est pas un accident, car elle s'identifie à la substance. Donc, c'est vraiment ce qui définit chaque personne, donc il définit la substance de chaque personne, et qui finalement définit la substance de Dieu. Du coup, il rend ainsi raison à la multiplicité des personnes en Dieu unique. Les personnes n'étant que relations ne multiplient pas l'être absolu divin, mais réfèrent les trois personnes à cette unique existence sans changer la commune nature. Donc il parle de relations subsistantes. Alors je trouve que le terme est assez parlant, enfin bon, en tout cas je trouve qu'il me parle. C'est-à-dire qu'en fait, on a la relation qui est tellement forte, tellement qui remplit tout, qu'elle en devient substance. Alors pas substance au sens matériel du terme, d'esprit d'une certaine manière, mais substance au sens d'une vraie réalité. Quelqu'un dit ceci. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que les relations sont subsistantes en Dieu, et il n'y a qu'en Dieu que c'est comme ça. Donc nous, on n'a pas du tout ce caractère-là. Les relations, elles sont accidentelles pour les êtres humains. Et par contre, c'est le plus on vit de Dieu, le plus on rentre. Quand on parle, par exemple, que dans l'Eucharistie, qu'on devient le corps du Christ, quelque part, on essaye de basculer dans ces relations subsistantes. C'est-à-dire qu'on devient, quand on parle de corps, c'est que notre relation au Christ devient... subsistante de telle sorte qu'on puisse former le corps du Christ, toute l'Église. Donc on va retrouver ce concept-là dans la prière.
C'est une dimension sacramentelle aussi.
Oui, c'est par le sacrement. Mais il y a cette dimension où finalement on bascule de relations qui sont accidentelles à de relations qui sont plus subsistantes. C'est un peu l'acte de divinisation. En tout cas, c'est mon interprétation. Du coup, l'être de Dieu n'est pas multiple mais unité. La référence mutuelle des trois personnes partageant identiquement la même existence. Donc il reprend un terme de saint Anselme, dans la Trinité tout est un sauf le contraste des relations, donc on est toujours dans la même phrase. Les relations en Dieu ne sont pas extérieures, donc on n'a pas Dieu et puis après on définit des relations avec les personnes, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pas comme ça que la révélation commence, puisque dès la Genèse on a faisons l'homme à notre image, donc on n'a pas, c'est pas après coup, mais elles sont intérieures à la vie en Dieu. Donc, ce n'est pas des relations qui rejoignent des individus, qui connectent, mais c'est des relations qui sont intra-Dieu et qui font que Dieu est unique, en fait.
C'est dans l'âme d'intériorité. Oui,
on ne parle pas d'âme pour Dieu, mais oui, c'est ça. C'est vraiment à l'intérieur de Dieu que ça, que ça fait une... Les relations sont à l'intérieur.
C'est intérieur.
C'est tout à fait ça. Donc la philosophie classique définit la personne par ce qui clôt l'individu et le distingue de tout autre et en fait un « je inaliénable ». Saint Thomas définit la subsistance des personnes divines tout au contraire comme relation à autrui, au point qu'en Dieu, les personnes sont et ne peuvent être que relations. Donc ça rejoint assez la forme de pensée actuelle sur tout ce qui est autour de la personne humaine, qui est intrinsèquement sociale, etc., mal social, voilà, clairement ça c'est très moderne, sauf qu'on n'a pas été au bout de la chose parce qu'il faudra le redécouvrir en Dieu pour que ça nous parle vraiment et que ce soit vraiment utile. Voilà, mais en tout cas il y a vraiment cette idée que la subsistance des personnes divines est définie par la relation à autrui. Donc tout est clos sur lui-même comme individu, en Dieu la personne est essentiellement ouverture à autrui, donc elle n'est pas ce qui clôt et ce qui délimite entre deux personnes, elle est au contraire une ouverture. Elle n'est pas individualisée, elle n'est qu'altruisme. Le Père donne tout à son Fils. Donc, non seulement la relation Il est défini complètement par sa relation, mais il y a ce, en plus ce qu'on verra après dans la relation suprême d'amour. Donc Dieu a mis ce, un reflet de ça dans l'homme, qui, on est à l'image de Dieu, voilà, où on est intrinsèquement social, et que finalement c'est dans une relation qu'on peut probablement le plus s'épanouir vraiment. Donc, j'ai mis une frame de Casper, qui est un philosophe allemand, 19e, enfin 19e, je ne sais pas trop. Les personnes divines ne sont pas seulement en dialogue, elles sont elles-mêmes dialogue. Donc c'est l'idée que c'est en Dieu qu'il y a ce dialogue. Je reviens toujours à mon faisons l'homme, faisons l'âme à notre image. C'est en Dieu qu'il y a ce dialogue qui se parle. Alors on va aller encore un cran plus loin pour dire finalement le nœud de ces relations, ou le cœur de ces relations, c'est l'amour, et c'est ça qui fait que cette relation elle est aussi forte et qu'elle peut être subsistante et qu'elle peut créer l'unité en Dieu. Donc on a Saint Augustin et toute la tradition latine qui ont parlé de l'analogie des puissances de l'âme. Alors là c'est une autre façon de regarder les choses. Donc l'idée c'est Saint Augustin, si on parle de l'expérience de la conscience que nous avons nous-mêmes, comme si on avait un verbe intérieur, une parole, une pensée éternelle. Donc Dieu se reconnaît éternellement dans son Fils, il se dit en lui-même. En Dieu, se connaître et s'exprimer sont une même chose. Et ce verbe reste immanent en lui. Donc c'est un peu cette analogie de ça reste à l'intérieur de lui-même. Le Père qui est silence éternel avant toute parole est le fond d'où émerge la parole. C'est pourquoi on peut le comparer à la mémoire. Donc, du coup, on associe le Père à la mémoire. Dieu, en s'exprimant dans son Fils, s'aime en lui. Un même amour saisit le Père et le Fils quand ils se regardent, et cet amour est aussi grand qu'eux, il leur est commun. Et l'esprit, du coup, en est cet amour commun qui circule entre eux. C'est cette même idée qui a été reprise dans le concile de Latran. Alors, en fait, je n'ai pas retrouvé quel concile c'était, mais enfin, ça doit être un concile, ça doit pas être dans les premiers. Le Père est de toute éternité la substance, il la possède, ou mieux, il est par lui-même la substance, et il l'a communiquée en lui-même, de l'intérieur, à son Fils. Comme notre pensée procède en nous-mêmes, soulignait Saint Augustin. Et c'est de l'intérieur que la relation d'amour du Père, donnant tout au Fils, et du Fils lui rendant tout en reconnaissance, constitue toujours dans l'unité du Père, la personne du Saint-Esprit qui est l'achèvement éternel de leur unité. Donc, bon, alors je trouve que ces concepts-là sont, moi, je trouve ça plus compliqué. Je vous l'ai mis parce que c'est une référence.
Regardez ce qui vient. Notre pensée procède en nous-mêmes. Oui. Là, c'est dense parce qu'il y en a des choses à dire.
Mais moi, je trouve que c'est un peu théorique et c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, moi, je ne suis pas complètement emballée par cette façon de voir les choses. Et donc, je préfère Saint Jean Damascène qui a précisé la notion de péricorès qui avait déjà été utilisée avant lui, qui veut dire en circumcision. Alors, je vous ai mis les deux mots, comme ça, ça fait beaucoup plus simple. Mais circumcision, ça me parle plus. Péricorès, je ne parle pas du tout grec, donc je n'ai aucune idée. Donc, circumcession, c'est le côté intériorité réciproque. Donc, ça donne une idée de mouvement circulaire, interrelative et circulaire. Donc, c'est qui s'appuie sur les formules de Saint Jean, le Père est en moi et moi en lui. Donc, c'est un peu cette même idée. Donc, c'est comme si les personnes s'interpénètrent littéralement. Nous ne disons pas trois dieux, au contraire, nous disons il y a un seul Dieu, la Sainte Trinité. Le Fils et le Saint-Esprit se rapportent à un seul principe, sans composition ni confusion. Les personnes sont unies non par confusion, mais par inclusion réciproque, car il existe entre elles donc une circumincession, sans mélange ni confusion. Ainsi ne sont-elles ni séparées, ni divisées en substance. Pardon. En effet, pour tout dire en un mot, la divinité est indivise entre individus de même qu'en trois soleils, contenus l'un dans l'autre. Il y aura une seule lumière par compénétration intime. Alors, bon, le texte est un peu compliqué, et utilise plein de termes. Ce que concrètement ça veut dire, c'est qu'elles sont tellement l'une dans l'autre, tellement dans leur relation, le Père a tout donné à son Fils et le Fils rend tout à son Père, et pareil dans le Saint-Esprit, que finalement, c'est comme si, une image que je pourrais utiliser, c'est comme si le Père se déversait complètement dans le Fils, qui se déverse dans l'Esprit, et ça se redonne au Père. Donc en fait, elles sont en mode comme si en se déversant complètement, on avait un seul Dieu, et finalement qui se donne à chaque fois dans l'autre, en fait. Donc, c'est un peu ça l'image que moi, j'associe à circumcision. Voilà, avec ce sort de mouvement circulaire. Alors, il n'y a pas de temps, donc je mets du temps, mais voilà, c'est vraiment parce qu'ils se donnent complètement, donc ils sont l'un et complètement dans l'autre.
Immergés dans l'autre.
Ouais. Donc du coup, c'est cette interprétation et je trouve assez parlante sur ce que sur ce don total du Père au Fils, du Fils au Saint-Esprit réciproquement. Et finalement, on a un mouvement à chaque fois qui revient, c'est-à-dire que le Père donne tout à son Fils et le Fils renvoie tout à son Père par le Saint-Esprit en fait, qui émet lui-même. Alors en dernier, je voulais.
Ah, non, ça va. Pas. Je découvre aussi que les orthodoxes avaient la foi. Je savais pas qu'il y avait la foi chez les orthodoxes. Aussi.
Non, mais l'orthodoxe c'est la foi orthodoxe. C'est parce que le texte s'appelle comme ça parce que là on est encore avant la séparation catholique orthodoxe. Donc voilà, c'est encore une citation de Saint Jean Damascène. C'est encore un oriental. J'ai mis beaucoup de grecs et d'orientaux dans l'histoire. Alors la dernière partie, je voulais dire plutôt avec des mots non philosophiques quelque chose autour de la parfaite convenance de la Trinité. Je trouve que c'est, enfin, à la fois c'est très compliqué la Trinité parce que c'est pas un pour trois, enfin bref, c'est très compliqué, et en même temps c'est tellement consonant avec ce qu'est Dieu amour, avec ce que nous montre la révélation et ce qu'il nous donne, que c'est pour ça que je parle de parfaite convenance. Parce qu'en fait, pour aimer, il faut être plusieurs et non seul. Donc il y a une vraie nécessité, si Dieu est amour, à avoir en lui, au sein même de Dieu, des personnes qui s'aiment. Comme une symphonie. Et cet amour des trois personnes, par ce qu'on a vu sur la circumincession, fait qu'en se donnant complètement, il y a cette unité qui est une unité d'amour, en fait. Donc l'amour, c'est le don absolu. En Dieu, le Père donne tout à son Fils, tout, c'est-à-dire tout son être, sans diminution. Et le Fils est alors son expression parfaite, comme une image intérieure et vis-à-vis. Pas comme un miroir, un simple reflet, mais vraiment comme une image, et non plus comme une duplication. Le Fils n'est pas le Père.
Comme au paradis, on sera tous en symphonie.
On pourra être comme ça, ce serait bien. C'est un peu la divinisation. Voilà. Tout à fait. Le Fils a tout en commun avec lui, et du coup le connaît intimement. Il est reconnaissant de la merveille de ce don, et son bonheur est de rendre grâce pour cette plénitude partagée éternellement, adéquatement. Cet échange est une première surabondance. Le Fils est dans le sein du Père. René Laurentin, dont je me suis pas mal inspirée, même si c'est un peu librement de son bouquin sur la Trinité. Intériorité et vis-à-vis, autre personne et même être, éternellement achevé en cette perfection réciproque d'un bonheur partagé. Donc le Fils est tout tourné vers le Père. Il n'est que Fils, que bonheur de recevoir du Père. Cette relation, cette réception constitue sa personne. Et la réciprocité de cet amour est si fort qu'il spire une troisième personne, comme le trait d'union entre le Père et le Fils. Et en Dieu, tout est si fort, ces relations elles sont si fortes, si exclusives, cet amour est si puissant, que cela se cristallise en une personne. Alors le nom Saint-Esprit fait moins personnel, mais c'est vrai que l'amour se vit, il est difficilement définissable, il nous dépasse. D'ailleurs, le Christ, il n'est pas venu faire sur Terre un cours de théologie, hein. Il est venu vivre et nous parler de son Père et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le lien et l'achèvement de la Trinité. Il est à la fois l'amour personnel du Père, l'amour personnel du Fils et leur don mutuel. L'Esprit Saint est don en Dieu et don de Dieu. Donc on a effectivement l'analogie quand même avec le couple humain, même s'il est plus en finalité qu'à l'origine, où chaque personne est à la fois différente et en plus il y a comme dans les couples très très unis, qui ont vécu très longtemps ensemble, on a vraiment cette idée-là. Dans une sorte de nous, il y en a un qui débute la phrase et l'autre le finit, ils ont une volonté commune, ils savent déjà avant ce que va vouloir l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'une relation qui s'approche à l'image de celle de Dieu. Et du coup, d'avoir cette forme de comme une troisième, un troisième nous. Voilà. Bon, même si chez nous, ce n'est pas incarné non plus. Enfin, ça ne crée pas une troisième personne. Donc, le nous de la Trinité, c'est l'Esprit Saint, la communion d'amour. Donc, autant dans la Bible, on a souvent Dieu et Dieu, c'est le Père. Autant finalement, quand nous on s'adresse à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est le plus, de notre point de vue, qui est le plus qui nous révèle le plus cette unité de Dieu. Puisque l'Esprit Saint est le lien transcendant et intérieur, mais c'est aussi celui qui nous ouvre sur la Trinité. Et c'est pour ça que dans Hébreux 1:3, où il y a le Christ est dit resplendissement de sa gloire et effigie de sa substance. Les mots sont très, très beaux, mais il y a quelque chose de ça, voilà, comme une surabondance, comme une sorte de... Voilà, chacun manifeste l'autre tellement l'un est dans l'autre. Donc en Dieu, connaissance et amour vont de pair, comme toujours, et l'essence divine, c'est l'amour. Ainsi, l'amour est l'unité même de la Trinité, et donc elle, il est Dieu. La nature de Dieu, c'est d'être trois, car Dieu est amour. Donc en fait, ce serait une définition de la nature divine, c'est d'être trois.
C'est marrant parce que c'est dit, parce que moi j'ai assisté à, avec Anne-Sophie à...
Attends, on va juste, finir. Attends, on va juste finir ça et après on parlera de.
Il y a une similitude.
Bien sûr, c'est
complètement paradoxal.
Alors, du coup, en conclusion, alors je vous ai fait, faire ma conclusion, mais après j'ai mis trois très beaux textes. Encore un passage du traité Saint-Esprit de Saint-Basile, deux textes magnifiques de Grégoire de Nazianze. C'est un petit évêque copain de Saint-Basile aussi, hein, c'est toujours dans les Cappadociens, que je trouve magnifique sur la Trinité, puis sur la prière. Et puis un passage sur comment la Trinité, en fait, qui peut paraître très mystérieuse, nous explique beaucoup de choses sur le monde et choses comme ça, et que finalement c'est une clé pour comprendre beaucoup de choses. Et ensuite, je vous ai mis, mais parce qu'on n'aura pas le temps d'aller jusque-là, je vous ai mis un texte explicatif un petit peu des hérésies concernant la Trinité et comment elle s'était dénouée. Voilà, que vous ayez un peu de culture historique, que je me suis appliquée d'abord à moi-même. Alors, la conclusion de ce thème, cette relation interpersonnelle et dynamique selon l'ordre des personnes, tout vient du Père, vers le Fils et de l'un et l'autre vers l'Esprit, qui leur est spirituellement intérieur, selon un lien sacré, mais dans l'égalité. Donc le Père est premier et source unique. Les deux autres personnes en reçoivent tout, sans dégradation. Dieu en trois personnes est le modèle interpersonnel suprême de l'amour. Unité totale dans la perfection totale, dans une cohabitation ou interhabitation réciproque. J'aime bien le terme de interhabitation réciproque. Cette relation absolue d'amour, nous la partageons par leur don gratuit. Finalement, nous en bénéficions. L'ultime et véritable image de Dieu en nous, c'est l'amour. En effet, si la Trinité reste une réalité hors de portée pour nous, Dieu lui-même a voulu nous inviter à y entrer. Donc, c'est qui nous a donné l'esprit, le cœur et les sacrements et l'âme pour entendre un petit peu quelque chose de ça. Et je pense que c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous donne la bonne lumière dans la prière. D'abord parce qu'il est le trait d'union entre le Père et le Fils. Ensuite parce que dans le ad extra de Dieu, autant en Dieu tout vient du Père, autant finalement hors de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui est le premier. C'est celui qui habite en nos cœurs, c'est celui qui nous fait découvrir le Père et aller même demander le baptême. Voilà, donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous donne la bonne lumière, les bonnes lunettes, on pourrait dire. Et par la contemplation... On peut faire un cours théorique comme ce que je viens de faire sur la Trinité, mais finalement, probablement qu'il aurait fallu aujourd'hui faire l'adoration après le cours, parce que ça aurait été plus facile de méditer ça, et que finalement, c'est là que ça va se jouer, c'est dans la façon dont ça va nourrir notre prière. Voilà, et je vais vous lire le petit texte de Grégoire de Nazianze, parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique. À partir de ce jour où j'ai renoncé aux choses de ce monde pour consacrer mon âme aux contemplations lumineuses et célestes, lorsque l'intelligence suprême m'a ravi d'ici-bas pour me poser loin de tout ce qui est charnel, pour m'enfermer dans le secret du tabernacle céleste, à partir de ce jour, mes yeux ont été éblouis par la lumière de la Trinité, dont l'éclat surpasse tout ce que la pensée pouvait présenter à mon âme. Je n'ai pas commencé à penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. Lorsqu'un des trois se présente à moi, je pense que c'est le tout, tant mon œil est rempli, tant le surplus m'échappe. Car dans mon esprit trop borné pour comprendre un seul, il ne me reste plus de place au surplus. Lorsque j'unis les trois dans une même pensée, je vois un seul flambeau sans pouvoir analyser ou diviser la flamme unifiée.
Ça, c'est des tests authentiques. Enfin, c'est, c'est recherché dans le...
Ah ouais, c'est vrai, bien sûr. Oui, c'est très, très connu. C'est un grand...
C'est magnifique, c'est une beauté.
Et alors sur les clés, c'est vrai que je vous ai mis des pistes qui sont moins poétiques. Sur la clé encore deux minutes. Ouais. La clé du mystère de Dieu, donc Dieu est amour qui unit les trois personnes, donc c'est la clé d'accès à Dieu. Donc, contempler Dieu en vérité, c'est le contempler Trinité. Mais finalement, ça rejaillit sur beaucoup d'autres choses. Donc la clé du cosmos, qui finalement est multiple et un, en relation interne, externe, et avec toutes ces notions autour de la solidarité, la communion des saints, choses comme ça, enfin tout ce qui est autour de ça. Ça nous dit quelque chose de cette unité dans le multiple. La clé de la vie, on voit qu'on est fait de milliards de cellules finalement et ça forme un seul être et que chaque être est à la fois différent et en même temps constitué de la même façon. Et la clé de l'homme, je pense que ce serait très intéressant d'étudier, de faire l'anthropologie à partir de la Trinité. Intrinsèquement personnel et social, à l'image et à la ressemblance de Dieu par l'intelligence qui connaît et pense avec autonomie. Et surtout par la faculté d'aimer d'un amour personnel plus fort que la mort. Le social chez l'homme est moins que le social en Dieu, qui est en unité absolue et identité ontologique. Mais analogiquement, l'homme ne peut se réaliser comme personne que par la société, par l'amour. Et in fine, je ne l'ai pas rajouté, mais ce à quoi on est appelé dans la divinisation, c'est un peu cet ordre-là aussi. La Trinité éclaire l'ensemble, elle fait ressaisir partout le sens de l'unité et la source du bonheur dans l'unité don. Qui veut sauver sa vie la perdra et qui perd sa vie la sauvera. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Trinité. Et